80%, le podcast qui donne la parole au handicap.
Quand on entend handicap, on a tous des idées reçues, mais le plus souvent, on se sent plus ou moins concerné. Pourtant, une personne sur deux connaîtra au cours de sa vie une situation de handicap temporaire ou durable. D'ailleurs, saviez-vous que 80% des handicaps sont invisibles ? Une maladie respiratoire, le diabète, de la dyslexie, la dépression ou encore une hernie discale peuvent mener à des situations de handicap et à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé alors que cela ne se voit pas ou presque pas. Dans ce cas, le réflexe est souvent de ne pas en parler pour éviter le regard des autres, les jugements ou simplement par crainte de voir ses compétences mises en doute. Alors faire connaître ce qui ne se voit pas, faire entendre sa différence pour une insertion professionnelle réussie, pousser à changer de regard, c'est la volonté des salariés d'Altice France qui aujourd'hui ont accepté de lever le voile sur leur histoire et leur vécu du handicap en entreprise, qu'ils soient eux-mêmes en situation de handicap ou aidants familiaux. Avant de découvrir le témoignage qui va suivre, nous avons demandé aux collaborateurs d'Altice France ce qu'ils pensaient du fait de parler de son handicap au travail.
Il faut pouvoir parler librement de son handicap, en considérant évidemment que les personnes avec qui on en parle puissent être à l'écoute et bienveillantes pour pouvoir allier l'handicap et sa mission professionnelle.
Je pense que quand on est sur un objectif de recrutement, je pense que ça peut être une discrimination, comme il y en a sur plein d'autres sujets. Donc sur un handicap, je pense aussi.
Je suppose que ça dépend si la personne l'accepte. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle arrive à parler ouvertement de cet handicap.
J'ai peut-être une analogie à faire. J'ai un frère qui est diabétique, qui a un diabète très lourd, et je sais qu'il très peu de ses collègues sont au courant de son diabète. Alors c'est une question que je me pose, pourquoi il communique pas plus ? Parce que voilà, ça peut impliquer des crises d'hypoglycémie très importantes, de tomber dans le coma, et il faut que les personnes autour de lui sachent réagir.
80% le podcast.
Je suis Maxime Daridan, j'ai 37 ans, je suis rédacteur en chef adjoint, je travaille au sein des chaînes de radio et de télévision du groupe Altice Média. Je suis responsable du pluralisme et des relations avec le CSA et j'ai un handicap invisible.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Vous avez une RQTH depuis un an, c'est une reconnaissance officielle de votre qualité de travailleur handicapé. Pourtant, ça fait 11 ans que vous souffrez d'une maladie respiratoire. Qu'est-ce qui fait que vous avez attendu pour faire cette démarche ?
C'est un cheminement très personnel. Il a d'ailleurs fallu que je passe par la première étape qui était de me rendre compte que j'étais en situation de handicap. Et puis ensuite, faire les démarches nécessaires, en fait, ça a été non seulement la toute fin du cheminement, mais ça a été le plus facile. Le plus difficile, c'était justement cette part de réflexion personnelle qui consistait à se reconnaître en situation de fragilité ou en situation de différence, et pour ensuite comprendre que c'est le handicap, ce qu'est le handicap, et à la fin, faire les démarches. Pour l'instant, c'est quelque chose dont on connaît les symptômes, dont on connaît le mécanisme, mais dont on ne connaît pas encore l'origine. Donc ce cheminement de 11 ans est aussi le cheminement médical. Nombre de spécialistes d'hôpitaux se sont penchés sur la question et pour l'instant n'ont pas encore réussi à trouver de réponse. C'est assez frustrant de ce point de vue-là. Aujourd'hui, c'est en fait quelque chose qui peut me ralentir au quotidien. Ça a un impact sur mon endurance, une capacité respiratoire. Je ne peux pas courir après un bus. Mais sur ma vie professionnelle, pas forcément, parce que c'est quelque chose qui est sous contrôle. C'est une chose avec laquelle j'ai appris à vivre. Et donc, ça m'impose d'avoir des moments où je suis capable de prendre un peu de recul, de me dire, bon, là, il faut que je me calme un peu. Il ne faut pas que j'en fasse trop. Ça implique des moments de repos, mais ça n'a pas forcément d'incidence sur ma capacité à travailler, sur la question de la performance professionnelle. C'est parfaitement invisible.
Vous avez eu un déclic, finalement, pour entamer cette démarche ?
Alors oui, et c'est le moment où je place une petite minute publicitaire. Ça a été un cheminement personnel, ça a été aussi un cheminement professionnel, puisque je me suis engagé sur les questions d'accessibilité et de handicap. J'ai pu accompagner les efforts qui avaient été faits par la direction des ressources humaines, avec notamment la mise en place d'un numéro vert pour informer les salariés. Et j'ai moi-même été sensibilisé par cette sensibilisation. J'ai appelé le numéro vert et j'ai été accompagné dans mes différentes démarches.
Alors, vous avez entendu hein, tout à l'heure les verbatims de collaborateurs du groupe. Hein, tout son courage, finalement, à parler du handicap quand on en a un, malgré les peurs que cela peut susciter. Vous en parlez librement ?
Alors, j'en parle librement aujourd'hui. J'en parlais forcément moins librement tant que la réflexion n'avait pas abouti. La question de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est une étape assez importante parce que, quand bien même le corps médical n'avait pas réussi à mettre une étiquette sur ce dont je souffrais, l'administration l'a fait. L'administration a reconnu que j'étais dans une situation particulière qui nécessitait un cadre particulier. Et donc, dès lors que l'on a ce petit papier qui rend les choses officielles et qui, d'ailleurs, n'a aucun intérêt, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de choses à encadrer, c'est vraiment quelque chose que l'on classe et on passe à autre chose. Et j'ai trouvé qu'il était infiniment plus simple d'en parler dès lors que j'avais cette étiquette, ce cadre. C'est le fait de pouvoir mettre un mot sur ce qui n'en avait pas avant. La question du handicap en général est une question de dialogue et ça commence par une question de mots. Il faut pouvoir poser des mots sur les choses pour être capable ensuite d'en parler librement.
Est-ce que vous comprenez qu'on puisse avoir peur de parler de son handicap quand il n'est pas visible, bien entendu, dans le milieu professionnel ?
Bien sûr. On peut en avoir peur dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel. On peut avoir peur de l'image que ça rend de soi-même, avec peut-être l'idée que ça nous diminuerait vis-à-vis d'autrui. Mais là, la réflexion était un peu différente parce que, dans mon cas, il y avait un sentiment d'illégitimité puisqu'on ne savait pas ce que j'avais. Donc, en parler, ça aurait été quelque part vouloir me mettre au même niveau que des personnes dont le handicap est visible ou que des personnes dont le handicap est invisible, mais particulièrement présent et sur lequel ils ont pu mettre un nom, un diagnostic, quelque chose de formel. C'était un sentiment d'illégitimité assez fort, mais évidemment, ça s'efface lorsque l'on se rend compte, on regarde en arrière et on se rend compte que ça fait 10 ans, que ça a conditionné beaucoup de choix, que ce soit des choix professionnels, des choix personnels, que ça a dicté beaucoup de choses. C'est comme une seconde personne qui, dans ma vie, a pris des décisions à ma place. Donc, une fois que l'on a fait ce travail, que l'on s'est rendu compte en regardant en arrière que ça avait pris une telle place, c'est pas plus mal de mater la chose en y mettant des mots et en réussissant à en délimiter le cadre soi-même, en disant, voilà, au lieu d'être une personne séparée, un autre moi, ça va être un élément de moi-même que je mets dans une boîte sur laquelle je mets une étiquette, ça s'appelle handicap, et puis on passe à autre chose.
Alors, vous êtes responsable conformité CSA en charge du pluralisme sur les antennes et salariés donc handicapés. Est-ce que c'est votre situation personnelle qui vous a poussé à assumer cette fonction ?
Non, c'est ma situation professionnelle qui m'a amené à alimenter cette réflexion sur ma situation personnelle. C'est le chemin inverse. C'est en me familiarisant avec les questions du handicap que je me suis rendu compte que j'étais moi-même dans ce cadre-là.
C'est important, justement, précisément, que cette question du handicap soit parfaitement identifiée dans les médias, que les médias sachent en parler.
Le handicap, ça va concerner une personne sur deux. Nous sommes tous concernés, la population française vieillit. Avec l'âge viennent un certain nombre de limitations qui sont partie intégrante du handicap. Et donc, c'est quelque chose qui doit être mieux intégré aujourd'hui pour que demain, nous soyons tous en mesure soit de faire ce cheminement tout seul, soit d'accompagner les personnes qui nous entourent et qui sont concernées. Chaque année, dans le baromètre de la diversité du CSA, il est reconnu que le handicap a finalement très très peu de place sur les antennes de radio et de télévision. Et ça commence, on y revient, par une question de vocabulaire. Nous venons d'ailleurs de signer une charte fin 2019 à cet effet qui porte sur la représentation du handicap. Cette charte, à la fois, permettre d'alimenter un lexique sur le vocabulaire permettant de bien parler du handicap dans toute sa richesse, et à l'inverse, un lexique de choses à éviter qui sont des termes issus du handicap, du vocabulaire courant. L'exemple le plus simple que l'on ait, le plus courant, le plus facilement entendu sur les antennes de télévision et de radio, c'est la notion de dialogue de sourds. Ça commence par là.
Du coup, comment travailler finalement cette représentativité avec les termes les plus justes alors, Maxime ?
La difficulté en télévision, par exemple, c'est que la visibilité du handicap à la télévision se réduit assez rapidement à la part des 20% de personnes en situation de handicap visible, et du coup, les 80% restants n'existent pas, parce que ce que l'on voit, c'est ce que l'on comprend. Une personne qui, comme moi, passerait dans le cadre d'un micro-trottoir, dans les faits, c'est une personne en situation de handicap, mais il n'y a aucun moyen pour le téléspectateur de s'en rendre compte. Donc, c'est plutôt par le récit d'expérience personnelle que l'on va y arriver.
Un message peut-être pour finir, Maxime, un message que vous souhaiteriez adresser.
On ne peut pas prétendre savoir si on est concerné ou pas jusqu'à temps d'en avoir parlé à quelqu'un. Le handicap se présente sous une telle variété de formats, de types de handicap, de questions du quotidien. Je dirais que le plus simple, c'est, si l'on a le moindre doute, de faire usage des outils qui sont mis à disposition, comme ce numéro vert. C'est une personne qui est là dans l'anonymat le plus total pour pouvoir justement échanger, et ça vous permettrait de savoir si vous êtes concerné ou pas.
Voilà, faire un pas de côté pour changer de point de vue et changer son regard sur le handicap, qu'il soit visible ou non visible. Prenons le temps de mieux nous renseigner sur la façon de construire une société plus inclusive. Vous avez un handicap, alors n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs dédiés handicap dans le groupe pour toutes les demandes d'accompagnement, quelles qu'elles soient bien sûr.
C'était 80%, le podcast qui donne la parole au handicap.